ou à tout le moins de faire partie d'un gouvernement. Puis là, ils réalisent que ce qu'ils se sont fait promettre dans le pitch de vente, la réalité est tout autre. Parce qu'il y en a qui vont loin, ouais, là. Ah, c'est garanti. C'est dans pas Charles Milliard, là, ça va pogner. Ouais, le feu va pogner.
Je pense que le Parti libéral n'a jamais été dans une position pour pouvoir penser qu'ils allaient accéder au pouvoir. Les dernières années ont été difficiles. On se souvient ce qui s'est passé avec Pablo Rodriguez. Mmh. Tout ce que le Parti libéral a besoin à ce moment-ci, parce qu'on le voyait beaucoup, effectivement, puis parce qu'il siégeait, fait qu'il y avait des manières de répondre. De chaîner,
oui. Mais t'as raison, c'est lui qui a été le meilleur chef du Parti libéral dans les quatre dernières années.
Il était pas chef, il était parlementaire. Mais dans le cas du Parti libéral, le défi, c'est de se construire suffisamment pour pouvoir devenir une opposition officielle. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Sauf que quand, dans tes projections, tu peux même pas devenir député. Tu sais, c'est au-delà de... Tu peux pas promettre à quelqu'un de devenir ministre ou quoi que ce soit. Tu peux même pas y dire, moi, je pense que tu vas devenir député, alors qu'il y en a qui sont prêts à faire cette run-là par conviction en se disant, si on veut accéder au pouvoir à un moment donné, il va falloir qu'on fasse nos preuves comme parti.
Parce que fondamentalement, qu'est-ce qui justifierait que quelqu'un vous laisse présenter il y a 3 mois, puis que là, il veut plus se présenter, ça fait 6 au sein d'un même parti?
Ça n'a pas collé d'un sondage.
Non, je pense qu'ils se sont fait bourrer, moi.
Et je suis pas...
Je pense qu'ils se sont fait bourrer
un petit
peu.
Je pense qu'ils y ont cru.
Je serais vraiment curieux de parler à ces gens-là. T'installes un pichet autour de la table, on boit un peu, puis là, les langues se délient.
Mais moi, je trouve ça correct que ce monde-là s'en aille, pour être bien honnête.
Ben là, si,
parce que dans ma tête, si t'embarques puis tu débarques, t'étais juste pas faite pour ça. Là. Tu veux dire, t'étais pas rapport là, c'est clairement de l'opportunisme.
Portez-vous au printemps. Tu sais, François Legault quitte, course à la chefferie. Tout le monde donne la CAQ comme étant mort et enterré.
Oui.
On disait à ce moment-là, mon Dieu, la bataille à l'élection, ça va être, comme dans le bon vieux temps, les bleus contre les rouges. Fait qu'à ce moment-là, que tu te présentes pour le Parti québécois ou le Parti libéral, tu dis, si je suis dans un secteur où on peut avoir de l'avance, il y a des chances que je me retrouve avec un salaire de député. Je vais-tu être dans l'opposition? Je vais-tu avoir des dossiers à défendre? Je vais être capable de shiner, puis je vais être capable de prendre mes convictions puis les amener à l'avant-plan? Là, le Parti libéral, puis je comprends que les intentions de vote actuellement, il y a 50 % de la population qui n'est même pas certaine de son vote, que ce vote-là est encore prenable. Mais pour certains secteurs, quand le Parti libéral voit qu'ils sont peut-être 3e ou 4e dans les intentions de vote, soudainement, tu dis, hey, je m'en faire la run pour me faire dire, bravo, tu as eu un 4 % ça se peut qu'il y en ait que ça décourage.
Ouais. Mais en même temps, il n'y a jamais rien de garanti.
Non, puis ça, c'est l'autre affaire, parce que à ce moment-ci, il n'y a rien de garanti.
Ils ont-ils oublié de le dire? Hey, ça se peut que tu perdes.
Mais non, mais c'est ça, moi, on dirait que je trouve un peu insultant. C'est que dans ma tête, puis là, c'est vraiment un monde de licorne. Mais dans ma tête, quand tu te présentes, c'est parce que tu as envie de changer les choses, tu as des convictions, tu as envie de pouvoir amener.
Oui, mais pour ça, il faut que tu sois élu.
Ben oui, mais je veux dire, ça fait partie de la game, ah, c'est oui. Malheureux. Là.
Absolument, absolument.
Ça fait beaucoup de PA méthode dans un seul parti, je trouve.
Puis tu sais, puis il y en a, je pense, qui acceptent d'être.
Aujourd'hui.
De savoir qu'ils vont être une face, une pancarte pour une élection, puis qu'ils ne seront pas élus pour leur parti, pour leur permettre d'avoir des gens dans les 127 circonscriptions.
Il est brisé.
J'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde.
Non, je suis avec toi.
Moi aussi.
Es-tu bon, ton baby-bell?
Personne ne s'en rend compte si on n'en parle pas. Il est très bon. Il me permet de rester avec toi. Tu devrais l'apprécier.
Donc, la personne dont Denis parlait, là, c'est un candidat qui était dans le secteur des Laurentides, là, dans le comté de Labelle, Alain Tremblay,
ouais,
qui a choisi de se désister. Puis là, tu sais, lui, c'est tel que tel. C'est un candidat libéral. Hier, on s'est parlé de Benoît Charrette, ministre des Transports. Il est dans le cabinet là, de Christine Fréchette depuis des mois. Dans 7 jours, il y a vraisemblablement une élection qui se déclenche. Puis hier, il annonce qu'il ne revient pas. Aujourd'hui, c'est le nom de Simon-Jolin Barrette qui arrive à la surface parce qu'il fait partie de la liste des candidats. Mais de plus en plus de personnes sous-entendent qu'il pourrait quitter le navire alors que c'est un ministre senior, c'est un ministre d'importance. Puis aujourd'hui, Christine Fréchette, quand elle a été questionnée, elle a dit « bien, il y a des discussions qui sont en cours ». Elle n'est même pas capable de dire « non, Simon-Jolin Barrette est là pour rester puis il va se présenter à l'élection avec nous autres ». C'est capoté pareil. Là. Ouais. C'est bien plus inquiétant que ce qui se passe au Parti libéral.
Mais là, s'il ne se présente pas, on a-tu quelqu'un à envoyer, nous autres, la Claire Communication? Là? On est la seule station de radio qui n'a pas envoyer de délégués.
Aujourd'hui, c'est toi qu'on envoie.
Ah, bon, d'accord. Pour la CAQ.
Ben, tout le monde le dit, là, t'es le Simon Jolin de Barrette de la politique.
Mais
là,
c'est ça.
C'est ça.
Je vais leur proposer le fameux slogan qu'un auditeur a mis sur la table hier pour. Parce que la CAQ, on ne connaît pas encore le nouveau slogan. Je trouve que c'est une idée de génie. Chérie, j'ai changé. Donne-moi une chance. On va l'essayer.
D'ailleurs, il y a juste la CAQ et Québec solidaire qui n'ont pas dévoilé leur slogan du côté du Parti libéral qui le lançait aujourd'hui en disant « notre quartier général va être à Québec, c'est rassembler, réparer et bâtir ».
C'est pas
ça, bon. Mais c'est parce que ça peut surtout s'appliquer à leur parti avant de s'appliquer à la province.
On dirait le début d'une comptine de passe-partout.
Ben, ça aurait pu être le slogan de la course à la chefferie du Parti libéral.
« Main fait pour bâtir », tu sais, ça marche... Un petit malaise.
Bâtir Maison Canada, moi, ouais, c'est...
un peu,
je suis
hein?
Là un peu.
Il y a comme plein d'affaires. Les premières associations d'idées qu'on fait avec le slogan, c'est pas celles qui voulaient qu'on aille.
Qui sont ces gens-là qui font les brainstorms?
Ah, ça, c'est les faiseurs d'images. Mm-hmm. C'est des firmes, ça, qui sont engagées pour ça, j'imagine? Pour essayer de bâtir tout ce qu'on va appeler l'image de marque d'un parti pendant une campagne électorale? Là-dessus, ils sont peut-être fourvoyés un peu.
Hey, vu qu'on parle de l'engagement, est-ce que vous mettriez votre carrière sur pause parce que votre tendre moitié tente l'aventure politique?
Hey boy! J'aurais...
Je vais mettre le contexte. Réfléchissez à vos réponses de part et d'autre. L'origine de tout ça, c'est le fait qu'on va annoncer éventuellement la candidature de l'autrice et chroniqueuse Geneviève Peterson pour la CAQ dans le secteur de l'Assomption. C'était le comté qui était représenté par François Legault. Et elle, son conjoint, c'est Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves McSween, c'est une figure connu des médias, c'est un gars qui parle de finances, qui a des tribunes un petit peu partout et plus particulièrement du côté de la télé et de la radio d'État.
Essaies-tu de laver plus blanc que blanc? Parce que c'est facile, parler de finances pendant un mois sans parler de politique.
Pas quand t'as une campagne électorale.
Moi, parce que je trouve ça juste, honnêtement.
Lui,
il se serait fait reprocher.
Sa job, c'est souvent, mettons, il y a un sujet d'actualité, mettons, le gouvernement annonce une réduction d'impôts pour telle frange de la population. Lui, sa job, ça va être de dire, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, est-ce que ça va avoir un impact ou encore c'est de la poudre aux yeux. Fait que pendant une campagne électorale, t'as toutes les parties qui vont faire leurs propositions. Lui, il se retrouve, il y a une conjointe qui est candidate la CAQ, qui est le parti au pouvoir. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait là.
Ben,
à court terme.
Tant mieux s'il peut se le permettre, mais moi, ma prise de position là-dessus, puis je serais peut-être en porte-à-faux avec les patrons, mais moi, c'est moi, ma blonde, c'est ma blonde, là, je veux dire...
Je comprends.
Moi, je vais continuer de caller à game. J'aime mieux continuer de caller à game à tous les jours à la radio puis me faire bougonner à la maison en revenant que de me tasser pendant un mois assis sur mes deux mains, tu sais. Puis moi, dans ma tête, c'est pas parce que t'es avec une personne que t'épouses toutes ses idées, là. C'est pas parce que ma blonde se présenterait pour la CAQ que soudainement je suis pro-CAQ. Puis anyway, j'ai pas de blonde, puis vous pensez que je suis pro-mère pareil. Fait que... tu sais, veux dire...
On dirait que je suis comme en entre-deux là-dessus, parce que si mon partenaire me le demandait, j'aurais la réflexion.
Si tu...
D'un autre côté, je pense que j'ai pas le choix de me ranger de ton bord, parce que ben, j'ai comme la prétention de dire que je dis tout ce que je pense.
Ouais,
fait que je me mets, t'sais...
Mais notre rôle n'est pas le même que lui.
Effectivement.
Lui, il est payé pour faire ces analyses-là, pour dire c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu.
Et comme François vient de nous l'écrire, y en as-tu vraiment besoin?
Ça, c'est peut-être la question qu'il a demandé à elle. En as-tu vraiment besoin de te présenter en politique?
Ben écoute, si je me mets sur pause, c'est pour faire campagne avec ma blonde.
Ah oui?
Ouais, c'est faire le tour des mains. Parce que j'y crois, parce que je la soutiens à 200%. Ouais. Tu sais, si tu fais vraiment la game du couple en campagne puis que tu décides d'embarquer puis devenir un instrument de la campagne électorale, ni plus ni moins, là, je serais pas mal moins à l'aise de venir vous parler de politique à tous les jours à la radio. Mais si je continue de faire ma job puis qu'elle a fait son porte-à-porte
t'es
tout seul...
T'es dissocié,
ouais,
c'est ça. Mais je pense que c'est ça que tu veux pas te faire reprocher parce qu'inévitablement, tu supportes ta blonde. Mm. Pas nécessairement pour le parti, mais tu supportes ses décisions puis ce qu'elle fait.
Pour certaines personnes, ça peut paraître comme étant de la partisanerie, puis tu vas perdre la crédibilité ou tu vas en enlever à ta conjointe. Dans son cas, à lui, c'est sur le court terme. Fait que mettons qu'on fait un bond dans le temps. Mettons qu'elle est élue, puis elle est dans l'opposition parce que la CAQ passe pas, puis le Parti québécois est là. Bon, c'est tel que tel, c'est pas grave. Si par contre, elle est élue, je doute qu'elle ait un portefeuille de finances puis d'économie. Je pense qu'il peut continuer sa job. Mais si, mettons, là, c'est comme la bolle des finances, puis elle est là, puis elle annonce des affaires, c'est un peu weird, là.
C'est malaisant.
Ben, c'est... tout est dans la façon, moi, je pense. Puis comment les gens le reçoivent. C'est
mais
sûr
c'est
qu'il y a des gens...
Ça, c'est la perception.
Ouais, il y a des gens qui vont crier que t'es pourri, là. Mmh. Il y en a. Mais moi, j'ai l'impression que si tu présentes bien ça à tes auditeurs, il y en a une grande partie qui peut accepter
ouais,
que toi, c'est toi.
Es-tu allé sur Facebook récemment?
C'est vraiment beau ce que tu dis.
Il y a une crèmerie qui s'est faite roaster parce que c'est des filles qui travaillent là.
S'il faut prendre toutes nos décisions de vie par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on va être une maudite gang à être malheureux. Là.
Non, mais le pire, c'est que t'as zéro tort, mais c'est pas de même qu'on fonctionne. La crédibilité serait affectée, c'est ça.
Regarde,
c'est,
on va l'essayer. Moi, essayer de me trouver une blonde péquiste là, ou, qui se présente.
Il y a sûrement une candidate
célibataire. Ah, je vais aller voir les photos. Là. ça commence
quoi, les photos?
Quand? Ben quoi, c'est les images de campagne? Oui. Quoi?
Pas les idées derrière, vraiment les images.
J'ai pu lire les CV.
Ah, c'est vrai, c'est ça qu'on fait sur Tinder. Hein? On lit les petits caractères. Bande d'hypocrites.
Hey, ça serait une belle campagne de pub pour un parti.
De quoi?
T'es présente, mais à la manière Tinder. Tu crées un compte, là?
Swipe à gauche, swipe à droite.
Avec les idées puis tout.
C'est pas grave.
Tu trouves une manière de faire les choses un peu différentes.
Attends un petit peu. C'est-tu à gauche ou à droite quand t'acceptes?
Droite.
Éric Duhaime et les conservateurs du Québec. Ah ouais, swipe à droite. C'est malade. Il y a un double
mais,
sens.
Honnêtement, ouais. Ah, non, il y a vraiment de quoi. Il y a de quoi pour rejoindre les jeunes.
Oh oui, oh oui.
On se partit une agence.
Sérieux, des fois, je nous écoute, là. On aurait un futur.
Ah oui?
On n'est pas des jours, là.
Savez-vous ce qu'on dit de nous? On dit de nous qu'on est les Paul Arcand de la radio
ben voilà.
Québec. Ouais, tout le monde dit ça.
Je suis tannée. OK.
T'as ri pareil avant de le dire, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça fait le tour pour... c'est pas une annonce qui a été confirmée encore, mais elle aussi, elle l'a mentionné sur ses médias sociaux parce que quand c'est sorti, elle dit « Mon téléphone s'est mis à popper de messages pour dire « Ah ouais, tu te présentes ». Il y a le ministre Leblanc qui est de retour à Washington pour tenter de ficeler l'entente avec les États-Unis où il semble y avoir... soit une stratégie de communication ou de la confusion, parce que, bon, hier, rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires, on leur donne les grandes lignes de la chose, il y a des questions qui sont à se poser. Ce matin, appel d'une heure entre Mark Carney et Christine Fréchette, qui est la seule première ministre qui est en campagne électorale à travers le pays au moment où on se parle. Elle a dit qu'elle lui avait posé, qu'elle avait eu les réponses aux questions qu'elle avait posées hier. Et on sait que le retour de l'alcool américain sur les tablettes au Canada, c'est de juridiction provinciale, mais malgré tout, la demande a été faite à Ottawa. Ça aurait été un OK de la part d'Ottawa. Puis il y a même un premier ministre de Terre-Neuve qui a dit « On a tout acquiescé, on était d'accord avec ça. » Mais Christine Fréchette dit « Pour le retour des alcools américains sur les tablettes de la SAQ, je prendrai une décision après analyse. » Fait que soit elle fait de la politique... soit le message n'a pas été compris par tout le monde de la même manière.
Moi, j'ai juste l'impression que dans la position où elle est présentement, c'est-à-dire dans une campagne électorale, elle veut donner l'impression que son poids décisionnel est important dans la balance.
Mais la vérité, c'est pas ça. Par politesse, on a informé les premiers ministres de partout, puis c'est tout. Là.
Remarquez-vous une tendance dans tous les dossiers que gère Donald Trump? Ouais, il sac de tout, hein? Ben c'est ça. Il sac de nous autres aussi. Il reste-tu d'autres nouvelles?
Peut-être terminer en vous parlant de la Ville de Québec. Ce matin, on nous présentait la cote de crédit de la Ville de l'agence de notation Moody's qui reste la même. Mais l'autre élément, c'est que ça, comme ça avait été prévu auparavant, là, la taxe sur l'immatriculation va passer à 93 $ à partir du 1er janvier. Ça fait quelques années déjà qu'elle est en place. Il avait fallu faire une espèce de bond de 60 $ par rapport à la base de 30 $. Puis là, ben, on l'ajuste comme ça à chaque 1er janvier. C'est le journal qui a pris le temps de lire un sommaire décisionnel qui avait été rendu public un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous rappelle que la taxe à l'immatriculation telle que mise en place par la ville, c'est pas la SAAC, c'est pour l'amélioration du transport collectif et tenter d'équilibrer les finances du RTC.
Il est 16h12 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour. Boulevard 102. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait protecteur de la classe moyenne. C'est sur ses ondes que la vérité surgira et que l'humeur règnera sur les médisances et futiles colères. Gravel dans le retour. Entre spectacle et gros bon sens.
Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour, 16h20, 420. Une belle soirée devant nous pour le baseball au stade Canac. On va aller vous rejoindre le plus tôt possible. On a hâte de prendre une broue avec vous autres.
Moi, ça va être un gin. C'est pas la soirée de gin?
C'est la soirée de gin à 50 %. Ben oui! Avec la bouffe à 3$, ça, c'est en tout temps.
Gin et poutine.
Gin et poutine!
Tellement hâte d'en profiter, là.
Tellement classe.
Je vais prendre juste le soda du gin soda, s'il vous plaît. Poche, là.
Je vais prendre un gin soda, pas de gin, extra soda.
Le braveur gin, s'il vous plaît.
Avec beaucoup de glace.
Ça se dégage complètement ce soir avec un minimum de 9 degrés. Demain, du soleil avec un maximum de 24. Samedi, alternant soleil-nuage, 60 % les probabilités d'averses qui ont été revues à la hausse. Maximum de 22 degrés, on prévoit de la pluie pour dimanche avec un maximum de 19. Ça se passe comment sur les routes, Audrey?
Pas facile. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, toujours au rouge. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne, surtout. Robert Bourassa, direction Nord, c'est dans le coin de Charest. Charest Est, en passant, c'est entre Duplessis et Henri IV, où c'est un peu plus compliqué. Henri IV Sud, à partir de Wilfrid Hamel, vous sentez un certain ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis Sud de Charest au pont. Pour ce qui est de la rive sud, ça se passe sur la 20 direction ouest, entre Monseigneur Bourget et Taniata. Chemin des îles, c'est problématique à la hauteur de la 20. Et c'est également au rouge si vous êtes sur Guillaume Couture. Entre Chemin des Îles et Taniata. Dernière affaire, le nouveau secteur qu'on explore ensemble dans les derniers jours dans le coin de Saint-Henri.
Ça va, Dora?
Bon ralentissement. Si vous étiez, mettons-le, ça commence sur la route du président Kennedy et quand ça devient la rue commerciale, donc après le carrefour giratoire, c'est vraiment un gros bloc où c'est hyper au rouge en ce moment, des gens qui tentent de faire des détours, évidemment, et puis ça marche pas bien, bien. Fait que c'est autre chose, 88-971-102 texto.
Quand on parle d'actualité et d'actualité judiciaire, souvent on suit un procès X, Y ou Z et quand le procès est terminé, coupable ou non coupable, c'est là que la switch se ferme, on perd contact avec à peu près tout le monde et particulièrement les victimes. Puis on se pose souvent la question, je veux dire, qu'est-ce qui reste après un processus judiciaire? Est-ce que tu sens de la satisfaction? Est-ce que tu sens de la frustration? Est-ce que c'est un mélange des deux? Il y a des parcours judiciaires qui sont plus longs et plus difficiles que d'autres. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que notre amie Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. Bonjour, Judith.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Tu as fait une entrevue avec quelqu'un qui a été violé il y a 30 ans et une partie de sa vie se résume à cette saga judiciaire-là et au fait que pendant une bonne partie de l'après-coup, elle a comme été abandonnée. Là.
Mm-hmm. Ben, en fait, pour elle, tout s'est réglé dans les dernières années, là, à partir de l'année 2022. Puis entre 1994 et 2022, c'était une vie de peur.
Ben,
une vie à se demander si tous les hommes qu'elle rencontre, est-ce que c'est lui mon agresseur? Est-ce que parce qu'elle ne l'a jamais vraiment vu, elle a juste vu ses yeux parce qu'il y avait une cagoule quand il l'a agressée en 1994.
Ça, c'est il y a 30 ans. C'est Sarah Boudreau qu'elle s'appelle?
Oui, elle s'appelle Sarah Boudreau. Juste pour revenir un petit peu sur les faits, en 1994, elle dort chez elle dans son appartement, puis elle avait laissé la porte déverrouillée pour que son conjoint rentre du travail plus tard. Puis dans la nuit, vers 2h du matin, il y a un homme qui entre chez elle, il coupe les fils de téléphone, il prend un couteau, puis il l'a agressé sexuellement, Sarah la menaçant avec le couteau. Puis ça a été d'une extrême violence, là, très traumatisant. Puis par la suite, Sarah Boudreau s'est réfugiée chez une voisine. Elle est allée à l'hôpital pour faire la trousse médico-légale. Puis elle a participé à l'enquête. Elle a même essayé d'identifier certains suspects que les policiers lui ont montrés en photo. Puis malheureusement, ça n'a jamais mené à une arrestation. Puis là, c'est en 2022 avec l'arrestation de Marc-André Grenon.
Oui,
oui.
Bon, ça a fait les médias parce que, il y avait des nouvelles, des avancées en analyse génétique avec l'ADN et tout. Puis
lui, qu'on avait réussi à le lier à une histoire de meurtre du côté du Saguenay. Puis justement, à cause de l'ADN, on nous avait raconté l'histoire dans les médias. Il y avait eu une filature quand il est allé au cinéma. Il a fallu qu'on trouve l'ADN de la mère. Puis c'est de même qu'on avait été capable de le lier à de l'ADN qui avait été retrouvé dans le temps sur le lieu.
Exact. Fait que lui aussi, là, je pense que son crime avait été commis 25 ans plus tôt et même plus, et il avait pu être arrêté finalement. Fait qu'en voyant ça, c'est le conjoint de Sarah Boudreau qui se dit « Hey, peut-être même qu'il se demandait si c'était lui son agresseur parce que les faits étaient similaires. »
Il y avait une histoire après ça qu'on a su à Québec d'une fille laissée pour mort après un viol.
Il avait fait plus d'une victime. Lui aussi, c'était pendant la nuit. Lui aussi, c'était très, très agressif. Et donc, il communique avec la SQ. Puis Sarah Boudreau, elle lui dit appelle. Moi, là, je, ça va bien présentement. J'oublie tranquillement. Puis elle, elle lit pas ces histoires-là parce qu'elle se tient
elle
loin.
Elle se protège.
Exact. Donc là, elle dit, ben écoute, si tu veux vérifier, vas-y. Puis tu m'en redonneras des nouvelles. Puis lui, il appelle. Puis là, c'est là que commence un deuxième cauchemar, en fait. Parce que... Puis elle décrit ça comme un coup de masse en plein visage, là. C'est qu'on lui dit d'abord que, ah, ben non, Madame Boudreau, votre agresseur a été arrêté en 97 puis a été condamné. Puis, ben, décidément, il avait oublié de la prévenir.
Quoi?
Donc là, ça la plonge dans une espèce de dépression puis une autre détresse parce qu'elle se dit, OK, la vie de peur que j'ai vécue, finalement, en hypervigilance, c'était pour rien.
Comment ça peut arriver, ça, techniquement?
Ben, puis là, c'est parce que... Là, elle se pose déjà des questions, elle fait déjà des démarches, puis là, on la rappelle. Des semaines plus tard, on est rendu en février 2023, puis on lui dit non, finalement, c'était pas lui le suspect. Votre agresseur est toujours pas retrouvé, puis le dossier avait été...
Fait qu'elle recommençait à stresser.
Exact, le dossier avait été classé résolu par erreur.
Oh mon Dieu.
Fait que là, on est reparti là-dedans, puis tout ça, ça l'a poussé un peu à... C'est ça qui l'a poussé à poursuivre la police de Québec, puis la Ville de Québec et le service de police, parce qu'elle voulait des réponses, mm-hmm. puis elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens, il fallait dénoncer, puis là, elle s'inquiétait pour toutes les autres victimes d'agressions sexuelles.
Mais là, je peux comprendre.
C'est un peu ça qui a démarré le processus. Puis parallèlement à ça, ben l'enquête criminelle a été rouverte par la police de Québec et ont finalement analysé l'ADN du violeur de 1994.
Qu'on avait depuis le début.
Ouais. Ils l'ont passé dans la nouvelle banque de données génétiques. Et puis, il y a eu un match très rapidement. Puis, ils ont identifié le coupable, Danny Lévesque, qui a été arrêté en décembre 2023. Il a plaidé coupable à l'été 2024. Puis, ce qui arrive ensuite, c'est un peu un film, là, parce que moins d'un an plus tard, on retourne au palais de justice pour l'étape des observations sur la peine. Sarah Boudreau doit parler devant le juge. Elle doit lire une déclaration. Elle doit finalement affronter...
C'est l'impact qu'il y a eu sur
elle, ouais. Elle doit finalement affronter son agresseur. Elle était prête à le faire. Elle était préparée. Il y avait toute son armée de monde avec elle venue l'épauler. Puis finalement, Danny Lévesque s'est jamais présenté au palais de justice puis a été retrouvé sans vie chez lui.
Circonstanciellement... je sais pas comment elle t'a expliqué ça, mais est-ce qu'elle reste avec un vide de cet épisode-là, de mm-hmm. dire « Moi, c'était là que je bouclais la boucle, c'était là que je le regardais dans les yeux, ça faisait partie de mon processus de guérison, mm-hmm. puis il a réussi à m'enlever ça en plus de m'enlever tout. »
Ce qu'elle m'expliquait, c'est que tout ça s'est passé vite, puis on lui a permis de lire sa déclaration même s'il n'était pas là, ce que... on n'avait pas besoin de faire parce que quand l'accusé est mort, ben c'est la fin.
Il n'y aura pas de peine.
Il n'y aura pas de peine, il n'y a rien à analyser, mais on lui a quand même permis de le faire pour elle parce que c'était important pour sa guérison. Puis c'est dans les semaines qui ont suivi ça qu'elle a commencé à se questionner qu'est-ce que ça représente pour moi, cette mort-là, dans le fond.
Mm-hmm.
Puis c'est là qu'elle a senti un poids de moins sur ses épaules puis qu'elle a finalement senti qu'elle pouvait commencer à guérir. C'est comme ça qu'elle me le dit. Elle dit,
okay.
C'est comme si il est enfin sorti de moi, sorti de ma tête.
Puis c'est plus une ombre qu'elle croise quand elle marche. C'est plus un individu qu'elle pense avoir croisé puis qu'elle
avoir
pas,
vu. Il est même pas en prison. Il va même pas sortir un jour. Il est plus là du tout. Là. Il existe plus.
Mais Dieu merci, elle prend comme ça parce qu'il y a des victimes qui auraient pu le prendre totalement à l'inverse.
C'est propre à chacune.
Mais oui.
Mais elle, pendant 30 ans, ça l'a tellement habité que je pense que là, elle était juste un peu contente que ça soit vraiment fini. Fait que elle a digéré tout ça. Elle avait maintenant un nouvel espace en elle pour justement plus vivre ses émotions. Puis là, arrive, parce que là, la poursuite civile est encore en cours. Mm-hmm.
Contre la ville,
long.
Puis ouais.
Puis là, elle était prête à se battre au début. Elle avait de l'énergie pour ça. Elle se disait, moi, je vais y aller au bout. Là,
ça arrivera plus, une histoire comme ça.
Une fille avec beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie pour ça. Puis elle avait, là, c'était allumé en elle. Elle a dit que c'est comme un feu qui l'habitait. Mais là, elle commençait à guérir, puis il fallait qu'elle se replonge là-dedans encore pour au moins quelques années, parce que ça s'en allait à procès, là, parce que la Ville de Québec contestait la poursuite. Et donc, puis ça a été dur pour elle, mais elle a décidé d'accepter une entente à l'amiable qui a été signée au mois d'avril dernier.
Oui.
Pas parce qu'elle veut abandonner, mais parce qu'il faut qu'elle se choisisse.
Elle t'a dit, je passe le flambeau, je n'abandonne pas. J'ai pas compris le sens de cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire?
C'est que pour elle, si elle signait l'entente, au début, elle avait l'impression que c'est comme ça qu'elle abandonnait la cause. Elle abandonnait aussi toutes les autres victimes avec elle qui sont un petit peu là-dedans. Mais après réflexion, puis après avoir discuté avec tout son entourage, puis avoir baigné dans, dans, le processus judiciaire, a dit « Je passe le flambeau à la prochaine femme qui va se lever, en fait. La prochaine femme qui va avoir l'énergie pour peut-être mener au bout ces combats-là contre le système de justice pour améliorer le traitement des enquêtes pour agression sexuelle. »
Puis peut-être que même le processus qu'elle a fait, même si ça s'est conclu par une entente à l'amiable puis que ça ne s'est pas rendu devant la justice, peut-être que ça shake suffisamment des institutions pour éviter les faux pas. Fait que tu sais, je le vois comme ça aussi.
Exact.
Il y a peut-être des gens à l'interne qui, eux, vont le reprendre, le flambeau, pour que ça se reproduise.
C'est ça, c'est pas de déposer les armes, c'est de les passer à quelqu'un d'autre. Elle, elle a fait son bout. C'est tout ce qu'elle peut offrir pour l'instant, puis vraiment correct.
Une course à relais.
Elle en a donné beaucoup. Puis maintenant, elle est prête à se concentrer sur elle-même puis laisser tout ça derrière. Mais elle veut que son histoire et que son message puissent donner de l'espoir et continuer à vivre.
C'est une femme qui est très forte, puis il y a des textos qui rentrent, puis qui partagent ce sentiment-là, puis qui disent bravo, mais j'essaie de voir le verre peut-être à moitié vide. Le fait qu'il y ait eu une entente à l'amiable, est-ce que ça fait en sorte que la police n'a pas à justifier tous les cafouillages qu'on a fait, ou à un moment donné, on lui a dit... Hey, on l'a, là, ton agresseur, puis il est en prison. Ah, oups, trois semaines plus tard, finalement, on s'est trompé, puis on n'aura pas à expliquer, là, c'est où, là, que ça... Ben,
j'ose penser qu'il y a eu des enquêtes internes, je peux pas croire, là.
J'ose penser aussi, puis c'est ça l'affaire avec les ententes à l'amiable, c'est ça, quand les gens plaident coupables, puis il n'y a pas de procès, puis on va pas au bout des choses, puis on pose pas toutes les questions qu'on veut, c'est dommage parce qu'on n'aura pas toutes les réponses. Puis elle est un petit peu liée par une entente de confidentialité aussi. Ça, c'est choquant. C'est la partie qui est tough, mais...
Comprends-moi bien, là. T'sais, je comprends qu'elle, elle veuille débarquer du bateau, là. Elle a passé suffisamment d'années à ruminer tout ça, puis qu'elle veuille se reconstruire, passer à autre chose, puis ainsi de suite. Je comprends ça à 200%. Mais une entente à l'amiable, ça amène cet aspect-là aussi qui est décevant, là.
Oui, oui. Puis c'est pour ça que faut continuer à dénoncer. C'est un peu le message qu'elle dit. Elle dit, gênez-vous pas, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va aller au bout, puis à un moment donné, Puis elle dit, là, ça a changé des choses. Il y a eu des gains. Il y a eu des gens qui ont réfléchi. Puis là-dedans, elle a croisé des gens bienveillants. Là. Elle n'est pas amère de tout ça. Okay. Elle est amère d'un système, de certaines techniques qu'elle voulait changer, mais ça se fait petit pas à petit pas, tu sais.
Est-ce qu'une personne qui passe à travers tout ce processus-là parce qu'elle dit « je veux passer le flambeau », elle aurait pu se retrouver en position de dire « hey, le processus judiciaire m'a laissé tomber dans une certaine mesure, ça a été dur, il y a eu des erreurs, il y a eu des bavures, je sais pas quoi dire à quelqu'un qui est victime d'agression, tu sais, parce que c'est un parcours qui est pas facile ». Est-ce que tu sentais qu'à ce niveau-là, elle avait des hésitations à dire « plonger » avec le système de justice?
Elle dit, moi, je peux pas dire à quelqu'un d'y aller là, sans avoir des avertissements. Puis elle disait,
c'est terrible, elle par disait, exemple, de dire ça à du monde.
Mais, puis tu sais, elle était très, très réaliste. Elle dit, tu sais, je vais lui dire d'y aller parce que c'est important, mais il faut qu'elle ait l'énergie.
Qu'elle se prépare.
Faut qu'elle ait une attitude quand même forte. Faut qu'elle soit fonceuse et faut qu'elle soit bien entourée.
Ouais.
Qu'elle ait beaucoup de support, de soutien. Mais c'est faisable, c'est exigeant, c'est difficile, mais ça se fait.
Tu peux pas juste y aller avec de la foi aveugle. Non. Faut que tu te prépares mentalement peut-être à des déceptions puis à ce que ce soit plus long puis plus dur.
Tout à fait. Ouais. Puis tu sais, vous me demandez souvent comment je fais pour faire le travail que je fais puis d'être dans ces histoires malheureuses-là tous les jours. Puis de rencontrer quelqu'un comme Sarah Boudreau, c'est ça qui est beau de mon travail, parce que c'est tellement une femme forte, courageuse.
Puis tu lui permets de raisonner.
C'est admirable, et de donner une voix un petit peu plus forte à ces gens-là, c'est beau.
C'est drôle, hein, parce qu'en lisant ton texte ce matin, je repensais à une conversation qu'on a déjà eue il y a quelques mois ensemble, où tu disais c'est important de trouver les rayons de soleil, même dans les trucs les plus sombres, puis de voir quelqu'un qui est rendu là, qui est capable de se confier, puis de partager que là, je suis rendu soulagé et libéré. J'ai dit, crime, elle a été capable, Judith, elle a trouvé un rayon de soleil, même dans une histoire comme celle-là.
Puis je suis contente que Sarah Boudreau ait trouvé son rayon de soleil, elle aussi, après toutes ces années-là, parce qu'elle le mérite.
Est-ce que plus souvent qu'autrement, vous perdez contact avec les victimes que vous voyez passer quasiment sur une base quotidienne au palais de justice?
Oui, puis tu le vois, là, des victimes qui sont très ouvertes à discuter ou pas ouvertes du tout. Mm-hmm. Sarah Boudreau avait déjà levé son ordonnance de non-publication sur son identité à la dernière date d'audience. Donc, il y avait ce désir-là chez elle de parler de son histoire et de ne pas rester dans l'ombre. Fait que je savais que la porte était ouverte.
OK.
Mais c'est sûr que, tu sais, quand je vois le règlement, ben je les approche, en fait, pour voir s'ils ont un message à dire, s'il y a quelque chose à faire avec ça, si qu'est-ce qu'on retient de ça. Puis c'est à eux, ensuite, de voir s'ils sont prêts à aller de l'avant pour ça. Mais oui, la majorité, on les revoit pas, puis et on pense beaucoup à elles, parce qu'après, le processus judiciaire aussi, c'est le moment pour elles de...
Il y a un processus personnel.
Tu veux plus être sur les projecteurs du tout. Là. Mais le cas de Sarah Boudreau est un cas assez spécial et unique.
À lire si vous ne l'avez pas lu ce matin. Hey, merci beaucoup, Judith.
Merci à vous.
Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil, qui collabore régulièrement avec nous. Lesoleil.com pour aller lire son texte qui se retrouve encore en une au moment où on se parle. Il est 16h36, 418-971-1021 pour nous rejoindre en studio.
Gravel.
Boulevard.
Si vous ne l'avez pas déjà, ben ramassez-vous l'application Boulevard sur vos cellulaires. Facile de se brancher en direct, facile de réécouter tout ce qu'on vous propose au cours de la programmation. De nouvelles voix qui s'ajoutent dès la semaine prochaine. Catherine Saint-Laurent, Nicolas Lacroix, que vous aurez le plaisir d'entendre au cours de la journée. Petite modification d'horaire pour notre ami Max Larouche, qui a terminé sa collaboration avec Marceau et la gang du matin, parce que Catherine s'installe à sa place. À partir de lundi, sur les routes, Audrey.
Je suis assez contente que tu me dises d'aller sur les routes, parce qu'il y a un texto qui est entré que je trouve fort intéressant, qui prouve la pertinence de mon obsession pour Saint-Henri. On nous dit « Wow! » Puis vous dire aux gens de ne pas tenter de passer par Saint-Henri, le détour ne marche vraiment pas. Ça enfantchénise la vie des résidents.
En fait, ce n'est pas un détour, c'est un raccourci.
Je vais être encore à la garderie. Mmh. Dans ce coin-là, ce qui se passe, c'est que les gens tentent justement de faire un détour, étant donné que c'est super difficile, entre autres sur l'Avin. Là, présentement, pour vous donner une idée, là, je veux juste être précise encore une fois. On est à Saint-Henri-Village, qu'on m'a dit tantôt. Il fallait que je dise ça comme du monde.
Saint-Henri, Audrey.
Oui.
C'est quel genre de village?
C'est un beau village.
Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Henri, Audrey?
Marcher. Vous pouvez marcher, vous pouvez aller dans plein de commerces. C'est un beau spot, pour vrai. C'est cute.
Belle place pour être pogné puis pas bouger dans le trafic.
Ouais,
hein?
C'est
oui,
ça. Oui. Fait que un peu après chemin Ville-Marie, vous allez sentir un ralentissement qui commence. Et là, c'est là que ça enfantchénise la vie des gens. Parce que sur route du président Kennedy, vous êtes pogné jusqu'à ce que ça devienne le carrefour giratoire qui vous mène à la rue commerciale. Dans ce bout-là, là, où le pont puis tout, là, au rouge, complètement, de bord en bord, fait que c'est vraiment difficile de circuler. Pour ce qui est du réseau un peu plus régulier, si vous êtes sur la capitale direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, ça bouge pas. Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Charest et la capitale. Des problèmes sur Charest Est entre Duplessis et Robert Bourassa actuellement. D'ailleurs, parlant de Duplessis, direction sud, entre Charest et les ponts, toujours au rouge. Si vous êtes sur Henri IV Sud, ça se passe entre Charest et les ponts également. Encore quelques ralentissements dans le coin de Shannon devant la base militaire, mais ça commence à se dégager tranquillement, pas vite. Pour la rive sud, c'est la 20 direction ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata. Il y a des problèmes aussi sur Chemin des Îles dans les deux directions, dans le coin de la 20, et des problèmes sur Guillaume Couture entre Chemin des Îles et Taniata. Évidemment, s'il y a autre chose, c'est le 418-971-102 texto.
Véro, le maire de Québec, Bruno Marchand, faisait un point de presse aujourd'hui, puis il était de bonne humeur.
Il était de bonne humeur parce que c'est une confirmation qu'on a eue de la part de Moody's, qui est une agence de cotation, à l'effet que la ville de Québec conservait sa très bonne cote, une cote genre AA2. On s'intéresse peu d'habitude à ces cotations-là, sauf quand il y a une décote, ce qui était arrivé au gouvernement provincial il y a 2 ans de ça. Puis à Québec, on avait été reconduit dans notre bonne cote. Puis la cote en question, ce que ça donne, c'est que quand on doit, par exemple, faire des emprunts, il y a des taux d'intérêt qui vont venir avec, fait que c'est l'équivalent d'une cote de crédit. Votre cote de crédit est de la marde, bien, ça se peut que quand vous demandiez un prêt, vos taux d'intérêt vont être plus élevés. C'est la même affaire pour les gouvernements, c'est la même affaire pour les villes. Donc, aujourd'hui, on a salué le fait qu'on avait réussi à conserver cette bonne note de crédit-là, entre autres. Puis la compagnie justifie la note de crédit. On dit que entre autres, ben, c'est parce que c'est une ville qui gère bien, que c'est prévisible, qu'on rembourse bien la dette, etc., etc. Donc, une cote de haute qualité avec un contrôle des dépenses qui est serré.
Mathias Turcotte, notre journaliste terrain, d'ailleurs, que vous pouvez rejoindre à l'adresse citoyen@blvd.fm, nous a sorti quelques extraits du point de presse du maire, parce qu'il y a eu de bonnes questions qui ont été posées par les journalistes aujourd'hui, entre autres concernant la bonne gestion des finances selon Moody's. Si les finances sont bonnes, pourquoi on a à annoncer de nouvelles taxes, entre autres sur l'eau et les déchets pour les commerçants?
Le fameux bâton après la carotte après les avertissements.
Est-ce qu'on avait vraiment besoin de sortir le bâton si la ville est bien gérée? Réponse du maire Marchand.
Parce que quand vous, en 2026, vous tenez un commerce et vous ne prenez pas la peine de votre carton de le mettre au recyclage, on a un problème. Et c'est tout le monde qui paye parce que vous êtes incapable de faire ce que les citoyens font. 70 % des matières recyclées dans un commerce ne sont pas recyclées. Alors, pourquoi on va mettre le bâton? Parce que c'est pas normal que les citoyens payent pour vous parce que vous osez pas, avec vos employés, faire le tri.
J'ai obligé de dire que je suis d'accord à 100 %, puis je suis pas le seul. J'écoutais Stéphane Lachance sur nos ondes ce matin. Lui aussi disait que ça avait pas d'allure là, pour une entreprise de ne pas recycler la base, de ne pas faire la base de ce qu'on demande aux citoyens. Là,
bien, t'sais, nous autres, on est obligés de faire l'effort, puis parce que des business ne le font pas, c'est nous qui payons plus parce que ça nous coûte plus cher comme ville. Puis, tu sais, ça avait déjà été discuté auparavant. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Mais, tu sais, l'utilisateur payeur. Oui.
Étiez-vous au courant du canard, vous autres?
Oui.
Oh mon Dieu, oui.
Oui, absolument.
J'étais pas au courant, moi, du canard.
Ben voyons, ça a été annoncé il y a plusieurs mois même.
Mais c'était-tu cet été ou c'était plus loin que
c'était au printemps même?
Bien, moi, j'ai un texte du 2 juillet, là, sous les yeux, parce que le canard qui allait s'installer dans le fleuve, moi, je n'étais pas au courant.
Je le trouve tellement beau.
Ça
là.
Avait fait bien gros, jaser.
Je peux comprendre. La ville de Québec qui injecte 220 000 $ dans une installation d'art public pour marquer l'été 2027, c'est-à-dire l'été prochain. C'est un canard de bain de Florentin Hoffmann.
Ouais.
Florentin Hoffmann. Florentin.
Il s'est promené à plusieurs places, en plus, ce canard-là.
Oui, qui va flotter pendant 2 mois sur le Saint-Laurent, dans le secteur du Vieux-Port. Il y a des questions qui ont été posées par les journalistes. Si on n'est pas dépensier, puis si on gère bien la ville, 200 000 $ ou 220 000 $ pour amener un canard...
T'es contre ça, toi?
Ben, je sais pas. Là,
mais moi, pour être allé me promener en ville, tu sais, cet été, il y avait, je me souviens pas du nom, là,
Les câlins.
La quantité de touristes que j'ai vu prendre des photos, les mettre sur leurs médias sociaux avec les câlins, c'est absolument fou.
Mais moi, il y a comme un bémol. Je pense que c'est nécessaire qu'on donne de l'argent pour l'art, pour faire vivre la ville. J'ai pas de problème avec ce type de dépenses-là. Je pense que c'est malhonnête de dire on donne de l'argent pour ça, mais on fait pas ci, on fait pas ça. Il y a des enveloppes pour toutes là, dans une ville, là. L'affaire, moi, c'est pour 2 mois. Tant qu'à injecter, mettons, de l'argent pour de l'or, pour embellir la ville, on peut pas comme avoir de quoi d'un peu plus statique pour, je sais pas, au moins 1 an, 2 ans.
Je pense qu'on se tannerait.
Vois-tu,
je pense que ça serait pas un aussi gros boom.
Vois-tu, moi, je fais du cherry picking différent. T'sais, tu parles des câlins, mettons, cet été, là, ou du passage avec les parapluies, puis plein de belles affaires qu'on voit. C'est toutes des affaires qui sont accessible. Tu peux te prendre en photo avec, tu peux te prendre en photo en dessous. Là, le canard va être dans le fleuve.
Ouais, mais tu peux prendre des photos pareilles.
Ouais, tu vas prendre une photo du canard dans le fleuve.
Tu sais que ça, il y a des caves qui vont partir en nage. C'est sûr.
Moi, je veux voir un gars.
Sur... croisières.
Moi, je veux voir un gars sur le canard avant la fin de l'été.
Moi, j'en rêve. C'est... Honnêtement.
Faites pas ça. Non, faites pas ça. Je veux pas voir un gars sur le canard avant la fin de l'été.
Mais tu sais, il aurait pu le mettre, mettons, accessible, le canard. À Baie-de-Beauport. Non, mais tu sais, que tu puisses comme le...
Il est tellement gros,
le tapoter, là.
Oui, mais il est vraiment, vraiment gros.
Mais là, le fait qu'on met ce canard-là, là, ça va-tu faire en sorte que les navires de croisière pourront pas passer parce qu'il y a un canard?
Non, ça n'a pas de rapport.
À cause du canard?
Je sais pas, mais t'es un navire de croisière, t'arrives, t'as la magnifique vue de Québec, puis en plus, t'as un canard de bain.
Fait qu'à 220 000, ça veut dire qu'on loue pour 110 000 par mois, c'est ça?
Ça ressemble à ça.
C'est cher, c'est cher. Mais bref,
c'est ça, là.
Bruno Marchand a été confronté là, à l'idée du canard géant pour l'été prochain.
Bien, vous pourrez demander aux artistes, c'est un symbole de déconnexion. Vous pourrez demander aux gens qu'on soutient dans le communautaire, c'est un symbole de déconnexion quand on investit dans un patro.
Non, mais on est sur le canard de bain, là.
Oui, mais après ça, vous pouvez prendre chaque dépense. L'opposition ne la ferait pas, celle-là. On n'a pas des chiffres touristiques par hasard de cette nature-là, de cette hauteur-là, parce qu'on ne fait rien, là.
Donc, pour être clair, vous avez fait vos calculs. Le canard, il a fait ses preuves ailleurs.
Oui.
Il va tirer du monde dans le Vieux-Québec.
Il va tirer du monde dans le Vieux-Québec. Il va rester, il va faire de Québec une ville qui est en tête de liste des meilleures destinations au monde.
Splish, splash, tout en prenant mon bain. Ferme dans un champ des soirs.
Je vais vous donner l'exemple du Rendez-vous naval de Québec. S'est installé pendant une fin de semaine dans le Vieux. Du monde de Québec qui serait pas venu dépenser une scène dans des restaurants de la ville parce qu'eux autres, ils le dépensent
attends,
ailleurs.
Tu peux visiter les bateaux.
Il y a plein de monde qui visitait pas. Là. Oui, mais tu étais là puis tu prenais des photos des bateaux. Tu pouvais monter. Mais la plupart des gens, il y avait des fucking gros line-up, étaient là pour voir le décor du côté du Quai Paquette à travers le grillage. Tu pouvais voir les bateaux. C'était loin. Mais tu sais, c'est du monde qui n'aurait pas nécessairement dépensé de l'argent dans ces commerces-là. Qui vont se déplacer là, par curiosité.
Il n'y a pas personne qui va aller au Canard. Il y a du monde qui va aller au Canard.
Il y a du monde qui va aller au Canard.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui
vont aller au Canard.
Oui, il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur le Canard, là, dans le sens que, ah, puis tant qu'à être là, on va prendre une photo. Là.
Oui.
Mais je ne sais pas à quel point tu en fais une destination. Tu sais, mettons, le rendez-vous naval, là, c'est un événement. Tu sais, il y a des petits marins qui se promènent partout. Il y en a au Garry de la Capitale.
Oui, tu sais, écoute, on a compris que tu serais plus marin que canard.
Non, mais
là,
le
ça,
point, c'est
ouais,
que...
Oui, rendu là, tu as peut-être un enfant qui tu vas vouloir montrer le canard.
Ben, pas fou, mais je me dis, c'est juste que là, il est juste là. Il y a rien, tu sais, il n'y a pas d'interactivité. Mais je ne suis pas contre le canard. C'est vraiment juste cette somme-là pour 2 mois...
C'est beaucoup.
6 mois au moins, là, come on.
Ouais, mais en même temps, je veux dire, quand les glaces vont pogner, tu vas faire quoi avec le canard?
Ah,
là?
C'est ça, ça va être tannant. On aurait pu le rentrer plus tôt, sinon. Là.
Serais-tu drôle, pogner d'un glace?
Le pauvre, il est gonflé.
Bruno Marchand sur le fait que certains l'accusent d'être dépensier.
Ils n'ont aucune preuve. Alors, tout ce qu'ils disent, c'est du vide. On peut pas nous accuser d'être dépensier, on peut pas nous accuser de ne pas être prévisible, on peut pas nous accuser de ne pas avoir un bon score financier. Quand Moody's dit ça... C'est comme si on avait sur notre bulletin A+. Quelqu'un peut nous dire qu'il y croit pas, là, c'est Moody's. Si tu crois pas à Moody's, tu crois pas à rien. Moody's nous donne un excellent bulletin. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle des preuves.
Si tu crois pas à Moody's, tu crois pas à rien.
C'est pas pire pareil. Moi, je crois au Moody's, puis je crois au canard.
C'est comme le texto rentre. Il me semble que c'est beurré un peu épais, par exemple, de dire que ça va faire de Québec une destination.
Absolument. C'est mais une attraction parmi tant
d'autres. C'est ça. Puis je suis pas en désaccord, mais je trouve ça drôle.
C'est un peu l'objectif de Québec d'avoir tout le temps quelque chose à offrir qui va faire que
c'est pas fou.
Des gens vont revenir. Puis tu sais, je comprends qu'il y a personne qui va partir de Paris pour voir un canard.
Mm-hmm.
Je comprends. Mais... il y a des gens qui vont quand même choisir de passer plus d'heures et de dépenser plus dans ce secteur.
Moi, j'ai beaucoup de petits canards qui coûtent rien sur le parc de la Montagne des Roches à Charlebourg. Beau spot!
T'as aussi des poissons rouges, en vous étant, on a vu ça plutôt cet été. Des gens qui laissent leur poissons rouges là-dedans, puis ça fait des...
Ils deviennent gros.
Ouais.
Ça vient des... Je pensais pas que ça venait gros de même. Ça devient des baleines rouges, quasiment. Là.
Oui. Bientôt, on va pouvoir faire des petites croisières aussi au parc de la Montagne des Roches.
Bien, à un moment donné, il va falloir les acheter en robeur parce que les poissons rouges vont avoir mangé canard, clairement.
Hey, à tous les textos qu'on a reçus, c'est des snowbirds.
Oui,
que vous avez
c'est quoi
vu
qui se
passe? Il y avait un spectacle non acrobatique qui se déroulait au-dessus du fleuve à la hauteur de la terrasse du Frein. Fait que ceux qui étaient sur l'autoroute Laurentienne, ceux qui circulaient en direction du fleuve, que ce soit Rive-Sud ou Rive-Nord, là, on a pu voir les passages des snowbirds. J'imagine que c'est fini à cette heure-là.
Question conne. Pourquoi on n'arrête pas de dire non acrobatique? Parce que c'est plus légal. C'est...
Non, c'est parce qu'ils font juste des formations, ils ont une espèce de losange qui se promène. Ils font pas de vrai puis quoi que ce soit. C'est probablement un dernier, sinon le dernier passage des snowbirds à Québec parce qu'eux autres, ils se font arrêter le temps qu'on fasse des acquisitions de nouveaux avions puis ça risque de pas revenir avant 2030.
Ah, ouais.
On investit parce que là, les avions sont rendus un peu trop vieux puis ça coûte beaucoup trop cher de les entretenir.
Ouais, ben là, on peut pas se payer des canards puis des avions. À un moment donné, il faut faire les choix.
Les avions coûtent plus cher que des canards.
Autre question qui a été posée par les journalistes aujourd'hui, si les finances de la ville vont bien, pourquoi demander que la fiscalité des municipalités soit un des enjeux principaux aux prochaines élections? Réponse de Bruno Marchand.
Le plus grand défi qu'on a, il est en termes d'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, on a un déficit d'entretien des infrastructures. À Québec, le déficit est moins grand que dans d'autres grandes villes. On est chanceux. Mais on a quand même un déficit d'infrastructures. On vous avait présenté le bulletin des infrastructures à travers notre bureau de gestion des actifs. Si on ne veut pas passer aux générations futures un fardeau, La ville ne peut pas faire ça seule.
Il y a des gens qui disent que c'est pas fini, les Snowbirds, en passant. Là. Oui, il y en a même qui disent que c'est rendu acrobatique. Là. Fait que, moi, je veux pas argumenter sur l'acrobatie des manœuvres, là, mais en tout cas, il y a des gens qui continuent de nous texter. Hey, juste pour revenir au canard, deux minutes, parce que je suis d'accord avec l'auditeur. Il dit bien honnêtement, même si on le remarque pas toujours, les éléments artistiques qui parsèment notre environnement ajoutent assurément quelque chose. On n'est pas en Union soviétique avec des blocs de béton puis des statues
absolument,
de Staline.
C'est vrai.
Moi, je trouve.
La couleur.
Oui, puis. Comment on appelle ça? C'est-tu les passages insolites?
Oui, il me semble que oui. En ville, là?
Oui.
Le Dex-Muro, là.
À chaque année, il y a des œuvres artistiques qui sont différentes, qui sont pas aux mêmes places. Puis à un moment donné, tu tombes là-dessus par hasard, puis il y a des gens qui se font prendre en photo, puis ainsi de suite. Puis moi, je trouve ça simple. Je trouve ça efficace. Je ne sais pas combien ça coûte. Pour être bien honnête avec vous autres, là, je ne sais pas si ça coûte un demi-million de dollars. Je ne sais pas, mais... Je pense que ça fait partie des responsabilités d'une ville de se mettre beau pis belle les deux mois et demi, trois mois que l'été dure, particulièrement dans le secteur touristique.
T'as comme maire de devoir
défendre
un élément parmi tous les autres.
C'est sûr que
c'est ça qui rend ça cocasse.
Ce qui est ponctuel, c'est ponctuel. Fait que c'est sûr que les gens vont venir, mais je me souviens de toutes les chemises qui ont été déchirées quand on a annoncé les Bambi à la place Jean Béliveau. Imaginez-vous la place Jean Béliveau sans les Bambi maintenant?
C'est vrai, oui.
Ah, puis rajoute les œuvres flyées des joueurs de hockey.
Ouais.
Là, au début, on riait de ça, mais finalement, c'est moi, vous le dire, exactement comme je le pense, c'est crissement plus beau qu'un bronze. Là.
Le nombre de fois que vous allez passer dans un secteur où il y a des bronzes, des statues bien standards, puis que les gens vont s'en sacrer. Bonjour, tour de l'Assemblée nationale. T'en as plein. T'as-tu vu souvent des gens arrêter, puis prendre des photos, puis prendre le temps de lire?
Non.
Quand tu vas te promener dans le secteur du Centre Vidéotron, immanquablement, il y a quelqu'un qui va peut-être passer pour la première fois, qui n'a jamais vu ça, qui ne connaît pas ça, qui va prendre le temps de s'arrêter, de regarder, de lire et de prendre connaissance de qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça représente.
Puis tu sais, concernant le gros canard gonflable, on n'aura peut-être pas accès, mais pensez aux gauchos en moto marine, là. Eux autres vont avoir du fun en tabarnouche.
Tourne autour du canard.
on tourne en rond, puis là, ça part. Il est à 17h pile. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour. Gravel. Antirouille Métropolitain vous offre son spécial d'été de 20$ de rabais sur un antirouille complet. Voyez les avantages d'un traitement antirouille métropolitain sur antirouille.com. Faites vite, cette offre prend fin bientôt.
Si vous entendez ça, c'est que l'événement liquidation Nissan est commencé. Et pas de stress, là, mais c'est le temps d'en profiter. Les Nissan Rogue 2026, VUS numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power, doivent partir. Obtenez 0% de financement jusqu'à 60 mois sur le Rogue S ou jusqu'à 13 500$ en rabais à l'achat comptant sur le Rogue PHEV, incluant jusqu'à 3 500$ en rabais gouvernement si admissible. Hé, hey, on avait dit pas de stress, non? Ah, passez chez votre concessionnaire Nissan dès aujourd'hui. Sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Et vous cherchez une activité originale à faire en famille cet été parce que oui, l'été n'est pas terminé. Ben rendez-vous le 29 août à la grande fête du port de Québec. Venez découvrir les coulisses du monde portuaire, rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre le port au quotidien, explorer un univers qu'on a rarement la chance de voir d'aussi près et vous profitez aussi d'une foule d'activités, d'animations, de découvertes pour les petits comme pour les grands dans une ambiance qui est super festive. C'est entièrement gratuit en passant. Si jamais Dame Nature ne coopère pas, l'événement va être remis au lendemain. Manquez pas cette journée-là unique au cœur du port de Québec. Ça se passe le samedi 29 août de 13h à 17h, secteur de on va reprendre ça, hein? Secteur de...
Non, c'est pas grave, on tape, là. On n'est pas live.
On est... Ah, OK, attends,
recommence.
Oui,
c'est ça, recommence.
Vous cherchez une activité. Secteur de l'estuaire, à proximité de l'Oasis. Donc, la grande fête du port de Québec.
Cette semaine chez Maxi, on valse avec la vente 1$. Les sacs de carottes et oignons à 95 cents pour les membres PC. Le poulet entier à 2,50$ la livre, 5,51 le kilo. Les raisins à 1,77$ la livre, 3,90$ le kilo. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Du 10 au 12 septembre, en collaboration avec Molson Export, le festival Envolé Macadam t'attend.
Avec Bad Religion,
Hatebreed,
Teenage Bottle Rocket,
Satanic Surfers,
Les Ghouls,
Horloge Simard,
Despised Icon,
Vader,
DVTR,
Mute,
Guttermouth et plus de 30 bandes qui se produiront au centre-ville de Québec et l'Agora du port de Québec. Le festival Envolé Macadam, du 10 au 12 septembre.
Demain, c'est vendredi. Ça veut dire que c'est la journée des nouveautés. Nouveautés streaming, nouveautés cinéma, nouveautés musicales, mais c'est aussi les nouvelles suggestions des trois chalots de la grande région de Québec, Beauport avec la zone SAQ, Saint-Émile et également Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier. Donc, demain, à quelque part dans l'émission, on va vous présenter des nouvelles sélections, des nouveaux produits. On essaie de faire attention maintenant à vous présenter également des produits de la gamme de plus en plus variée des produits sans alcool. Il y en a des centaines qui sont disponibles dans les chaloux de la région de Québec. Tous les produits des microbrasseries québécoises s'y retrouvent. Également les bières de soif dans les plus gros frigos de la business. Et tout ce que ça prend pour calmer une petite fringale, ou deux ou trois, ça prend un ravitaillement avant le début de la fin de semaine dans les trois chalots de la grande région de Québec. N'oubliez pas de vous abonner sur nos Facebook pour les nouveaux arrivages, les nouveaux deals et ainsi de suite. Puis nous autres, on se dit à demain dans la chronique Chaloux, Beauport, Saint-Émile, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
On se dit souvent